Bien, voilà le dernier exposé de la journée. C'est Pierre Verschuren qui vous présente cette communication. Il est actuellement assistant ici au Collège de France et fait partie de l'équipe de ma chaire. Il est historien des sciences. Il achève une thèse de doctorat à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est intitulée « Des savants aux chercheurs, la fabrique du scientifique ». Et le métier de physicien et de chimiste en France de 1945 à 1968. Sa thèse, comme ses publications, explore les carrières et les institutions scientifiques et leur transformation, notamment à la faveur des coopérations, échanges et projets internationaux et à la faveur de l'organisation du travail en équipe. La cotation de la valeur scientifique dans la recherche est intrinsèquement corrélée à l'espace international. C'est l'essence même de la recherche, et selon des modalités qui évoluent beaucoup, et c'est ce que nous allons apprendre.
Merci Pierre-Michel Menger pour ton introduction et pour cette opportunité. Ton introduction est d'autant plus efficace, puisque comme ça, mon accroche pour en prendre directement le contre-pied, méchamment. En fait, je voudrais commencer par une citation qui... relevé par Micheline Charpentier dans sa biographie de Jean Perrin. Donc Jean Perrin qui est un des premiers prix Nobel français dans les années 20. Et Micheline Charpentier recense donc en 1946, dans un rapport au comité national du CNRS qui porte sur un tout jeune chimiste qui a alors 25 ans et dont je ne donnerai pas le nom, donc le rapporteur a écrit « N'a rien fait, point, propage des théories étrangères ». On est en chimie, c'est a priori étonnant que encore en 1946 il y ait une chimie française, une chimie étrangère. En 1946, bon là on est sur la fin d'un mouvement, d'une situation très importante dans les années 20 et 30, qui est un repli sur soi, qui est valable pour des universitaires français, qui est valable pour toutes les sciences physiques, c'est-à-dire, j'entends par sciences physiques, la physique évidemment, mais aussi la chimie, l'astronomie, la mécanique, c'est-à-dire tout ce que, administrativement, l'université française de ce moment-là place sous la coupole de la licence de sciences physiques. Donc, par exemple, sur ce repli sur soi, Dominique Pestre l'a très clairement montré pour la physique, et Marie Jonaille l'a aussi, tout aussi clairement montré pour la chimie. Ça ne veut pas pour autant dire que les scientifiques français des années 20 à 40 soient xénophobes. Certains laboratoires, comme l'Institut du Radium, par exemple, de Marie Curie, s'appuient largement sur des chercheurs étrangers, voire certaines années majoritairement sur des chercheurs étrangers, en majorité issus d'Europe de l'Est. Martine Sonnet, donc, qui travaille dans le même laboratoire que moi à l'IHMC, a pu montrer que les boursiers de la Caisse nationale des sciences, c'est l'ancêtre du CNRS, entre 1933 et 1939, donc parmi ces boursiers, on avait 15% d'étrangers. Alors moi, j'ai les données pour le CNRS en 1947 et en 1963, et j'ai aussi ce 15% qui est d'une stabilité à toute épreuve. Et parmi les lieux de naissance des docteurs et sciences physiques, on en a aussi 15% donnés à l'étranger. Mais ça, c'est les gens qui viennent en France, ce n'est pas les Français qui partent. Et ce n'est pas non plus les gens qui font carrière en France, puisque à ce moment-là, les universitaires étant des fonctionnaires de l'État français, il faut qu'ils soient français. Il n'y a aucun moyen de contourner cela, si ce n'est ici au Collège de France. Alors, d'autre part, comme l'a montré Christophe Charles, les professeurs de faculté à ce moment-là voyagent assez fréquemment, mais ils jouent surtout un rôle d'ambassadeur, de représentant de la culture et de la science française. Donc on a une intersectionnalité de la science qui est très claire, mais qui concerne qu'un nombre réduit de personnes, des personnes, pour reprendre l'expression d'Antoine Lilti, des personnes célèbres, c'est-à-dire que ce sont des gens comme Marie Curie et Jean Perrin qui sillonnent l'Europe en faisant des conférences. Sur les 53 physiciens que Dominique Pestre place dans le groupe central, le groupe central de la physique française entre 1920 et 1955, excusez-moi, donc il a isolé les 53 physiciens les plus influents à la tête des plus grands laboratoires. Et donc sur ces 53, 5 seulement ont séjourné à l'étranger pendant leurs années de formation, fréquentant quotidiennement un laboratoire. Donc pour vous redire rapidement la situation dans l'entre-deux-guerres, les résultats circulent très bien à l'échelle internationale par le biais des revues. Mais ce n'est pas, pas la même chose pour les pratiques expérimentales, puisque pour acquérir une pratique expérimentale, il faut se déplacer, il faut l'avoir fait concrètement, il faut avoir acquis les tours de main nécessaires. Et ça nécessite un temps d'apprentissage long. Or, vu qu'il y a très peu de circulation pour acquérir ces tours de main, ces dispositifs expérimentaux, et vu que ces dispositifs expérimentaux servent à valider certaines théories, vu que le dispositif expérimental est à l'étranger et qu'on ne va pas à l'étranger l'acquérir, la théorie elle-même apparaît comme étrangère. Pour le dire vite, l'expérience de l'étranger donc relève du cas exceptionnel. Ce n'est pas une étape de trajectoire professionnelle, ça relève de la cerise sur le gâteau à la fin de la carrière. Alors, les causes de ça, c'est complexe, c'est débattu, mais moi, ce qui m'intéresse, et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'ouverture du bocal à partir de 1945. Alors, évidemment, 1945, ça change énormément de choses pour les sciences physiques, la physique en particulier. Hiroshima et Nagasaki, ça suffit à vous prouver à un décideur politique quelconque que ce que vous faites est important quand vous êtes physicien. C'était pas du tout aussi facile que ça dans les années 20 et 30. Où pour beaucoup d'hommes politiques, la physique relève à peu près la même chose que la philosophie. Ce sont des savants dans leur grenier. Donc après 1945, Hiroshima et Nagasaki, l'efficacité de ce qu'Alvin Weinberg en 68 a appelé la big science, c'est-à-dire la constitution de gros laboratoires avec énormément de gens, des gros équipements et surtout des gros investissements financiers et humains, donc cette big science, ça a prouvé son efficacité. Alors évidemment l'énergie nucléaire, mais dans la conquête spatiale, dans le développement des transistors et dans celui des radars. Bref, je vais le dire rapidement, et c'est un peu ça. S'il fallait que je résume ma thèse en une phrase, le paradigme scientifique change très très peu. Pour parler comme Thomas Kuhn, on est dans la résolution de problèmes, mais tout le reste change dans ce qui fait le travail quotidien du scientifique, dans ses carrières, le système des emplois, etc. Tout le reste change. En premier lieu, grâce à la multiplication des postes d'attachés de recherche au CNRS et d'assistants de faculté, le nombre de praticiens décuple. Alors, vous voyez ici, pour faire vraiment mon historien, je vous ai pris une courbe qui est dans les archives du Bureau universitaire de statistique, qui date de 59. Donc voilà. On voit très clairement que le nombre d'étudiants des facultés des sciences, dès 1940, commence à croître très fortement. Alors, il n'y a pas les autres facultés sur ce graphe, mais... pour vous le dire en une phrase, en 1940, l'ordre des facultés des sciences est le troisième ordre derrière la faculté de droit et la faculté de lettres en nombre d'étudiants. En 1955, il est le premier. En 15 ans, il a dépassé le nombre d'étudiants en lettres et le nombre d'étudiants en droit. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que ces facultés arrivent à transformer ce début de massification, avant les autres corps facultaires, arrivent à le transformer en nombre de chercheurs. Alors ici, vous avez la croissance du nombre de doctorats et sciences sur tout le territoire français, et on voit très clairement que cette croissance exponentielle, alors ici, vous avez des variations un peu erratiques qui sont liées à la guerre d'Algérie, puisque la conscription pose un problème pour le recrutement du doctorant, hein. Vous voyez clairement que c'est dû en particulier à la plage bleue, qui est la plage des sciences physiques. Pour le dire très vite, on passe de 65 soutenances par an sur tout le territoire français en 1945 à 826 en 1968. Et dans ce passage de l'un à l'autre, les sciences physiques passent de 46% du total à 72% du total. Donc on passe de moins de la moitié à plus des deux tiers qui sont captés par les sciences physiques. Alors, cette croissance a un nombre de conditions, de possibilités qui est assez impressionnant. Première conséquence de ça, c'est le développement du travail collectif. Vous pouvez voir ici, au travers du nombre d'auteurs de chaque article du journal Le Physique. Le journal Le Physique est, à ce moment-là, le journal central pour les physiciens français. Il est beaucoup plus important, à ce moment-là, de publier un article dans le journal Le Physique pour sa carrière que dans Nature, Science ou les Physical Reviews. Puisque c'est ce journal-là que les collègues lisent avant tout. Et on voit, alors évidemment, ça se déplace assez lentement, mais on voit surtout le développement des articles à deux auteurs, à trois auteurs, et à partir de 58, des articles qui commencent à être à 11 auteurs, 12 auteurs, tels qu'on les connaît aujourd'hui en sciences physiques, qui apparaissent comme une pratique de tout temps de la science physique, mais qui est en fait une pratique assez récente. Autre conséquence de tout ça, on a un développement quantitatif qui est impressionnant, mais évidemment, là-dedans, il y a des restructurations pour le dire vite, qualitative, dont on peut se faire une idée avec, en faisant un peu d'analyse de réseau. Alors, sur les graphes ici, chaque point est un professeur et chaque lien entre deux points est la coprésence de ces deux professeurs dans un jury de thèse. Voilà. Donc ici, vous avez les 44 thèses et sciences physiques qui sont soutenues en 1944 à Paris. Là, je parle de l'Université de Paris. Vous avez ici la situation en 1944 et vous avez ici la situation en 1968. Donc vous comprenez. Alors en vert, vous avez les gens de la faculté des sciences d'Orsay. Et en jaune, ce sont des gens extérieurs. Et en bleu, vous avez des gens de la faculté des sciences de Paris. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'est plus le même métier. Il y a, en 1944, on pouvait avoir une interconnaissance très forte. Tous ces gens-là se connaissent. Sont souvent de la même promotion d'une école ou une autre. Ici, c'est presque impossible. Sachant qu'il faudrait rajouter aussi les maths, les sciences naturelles, etc. Enfin, le troisième élément, et c'est mon sujet d'aujourd'hui, le passage par un pays étranger devient une étape valorisée, non plus exceptionnelle, elle n'est pas encore normale, évidemment, mais voilà. Alors pour vous, vous parler un peu de l'enquête orale, j'ai fait une enquête orale sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais les physiciens et chimistes expliquent qu'il était très important à cette époque, très valorisé en tout cas, d'être BTA, c'est-à-dire Been to America. Sachant qu'en chimie, par exemple, l'Allemagne pouvait bien valoir l'Amérique. Hein. L'industrie chimique allemande étant ce qu'elle est. Voilà, alors ici, vous avez des statistiques qui sont issues de Open Doors, qui est un rapport annuel publié par l'Institute of International Education américain à partir de 1950. Alors, les données sont difficiles à utiliser parce que c'est le résultat de questionnaires qui sont envoyés aux institutions, elles répondent parfois ou non, et elles classent les étudiants français en undergraduates ou en graduate students, ce qui n'a pas grand sens en fait pour la nomenclature française de l'époque, donc on ne sait pas vraiment qui sont ces étudiants. En plus, il y a une séparation entre physical science et engineering qui a un sens un peu différent en France, donc les polytechniciens par exemple sont un coup en engineering, un coup en sciences physiques. Mais dans tous les cas, on voit clairement une augmentation du nombre d'étudiants à aller aux États-Unis, alors en particulier engineering avec le rôle des grandes écoles. C'est d'ailleurs une courbe qui suit aussi les sciences sociales. Pour faire plaisir à Yann, j'ai mis la courbe des sciences sociales sur ce graphe et les courbes sont presque parallèles. Alors, comment ça marche, ce changement de rôle de l'internationalité? Alors, ça marche avant tout parce que l'internationalité est, dans l'immédiate après-guerre, perçue comme un levier de rattrapage scientifique. Levier de rattrapage scientifique, parce qu'il faut bien comprendre que le monde universitaire français a été en un certain sens coupé en deux entre ceux qui sont restés en France, donc qui sont restés isolés pendant 4, 5, 6 ans de la production mondiale scientifique, hein, ne ressemblant plus, par exemple, les revues scientifiques américaines ou britanniques, et ceux qui sont partis, qui ne sont pas aussi nombreux que ce que la mémoire de scientifique pourrait laisser penser, mais ceux qui sont partis pendant, pareil, 4, 5 ou 6 ans, qui ont vu d'autres modes de fonctionnement, et surtout qui valorisent cela très fortement en revenant. Alors, pour ceux qui sont partis, le principal courant, si vous voulez, c'est ce que Diane Dosso a appelé le plan de sauvetage des scientifiques français, qui est organisé par la Fondation Rockefeller. Alors, ça permet le départ vers les pays alliés de scientifiques reconnus comme menacés par les nazis. Et ça permet la fondation d'un bureau scientifique de la France libre en 1941 à New York. Pour vous donner une idée des quantités impliquées, ce bureau scientifique de la France libre comporte 35 personnes. C'est tout. Et dans ces 35 personnes, il y a 14 physiciens et chimistes. Voilà. Pourquoi ? Parce que la fondation Rockefeller concentre son action sur des scientifiques à la fois reconnus et, pour parler comme elle, qui ont des espérances, c'est-à-dire typiquement le scientifique, maître de conférence, c'est-à-dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, professeur de deuxième classe, donc qui est suffisamment jeune pour pouvoir tenir le choc du voyage et dont on espère plus tard qu'il pourra développer des choses intéressantes. Le scientifique de 20 ans les intéresse très peu, le scientifique de 60 ans, il faut qu'il soit prix Nobel, clairement. Par exemple, Marc Bloch les intéresse, mais pas tant que ça. Donc, il n'est pas parti. Sachant que l'appui de la Fondation Rockefeller est très important pour obtenir un visa, hein, puisque les États-Unis n'ont pas donné des visas à toutes les personnes qui voulaient venir. Il y a surtout une personne qui est très importante pour nous, là c'est la dimension historienne où je vais tout vous concentrer sur un individu, celui ici à gauche, Pierre Auger, qui part justement avec ce dispositif de la Fondation Rockefeller. Alors il est normalien, docteur en sciences, etc. Il quitte la France en octobre 1941 parce qu'il a été signataire du comité de vigilance, de l'appel aux intellectuels pour le comité de vigilance antifasciste. Donc évidemment, la Gestapo le suit de près. Une fois arrivé aux États-Unis, Pierre Auger travaille à l'Université de Chicago, où il dirige un laboratoire, puisque le directeur normal du Ryerson Physical Laboratory est engagé dans la création de la bombe atomique. Et donc lui prend la direction de ce labo pendant ce temps-là. Pendant 2 ans, donc, il dirige un laboratoire américain. Puis il devient lui-même directeur de la division de physique expérimentale du laboratoire anglo-canadien de recherche sur l'énergie atomique, qui visait là aussi à participer à l'arme atomique, qui est installé à l'Université de Montréal. Pendant ce temps-là, il écrit un article dont le titre est « Un projet de réforme de l'Université de France » qui est publié dans la revue d'Alger, c'est-à-dire la revue des intellectuels de toute la France libre. Alors je ne reviens pas sur cet article, mais le fait est que presque tout le monde l'a lu. En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale en 1944, Hervé Capitan, l'a lu et donc nomme Pierre Auger directeur de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire aujourd'hui l'équivalent de DGESIP. Donc il est le chef de tout l'enseignement supérieur de 1945 à 1948, ce qui lui donne une capacité d'action très importante. Alors ça porte sur 2 choses. Déjà, à ce poste-là, Auger il n'a pas beaucoup d'argent, mais il peut protéger les jeunes partis à l'étranger et vérifier que ça ne leur porte pas préjudice au moment de la nomination des maîtres de conférence. Pendant cette période-là, la nomination des maîtres de conférence ne se joue pas à l'échelle de la faculté, mais à l'échelle du ministère. Donc, pour être nommé, il faut pouvoir faire campagne à la faculté, puisque comme ça on a des appuis de la faculté, mais aussi en partie au ministère. Et c'est ce qui limite le voyage à l'étranger, c'est que on affaiblit ses chances d'avoir un poste, en fait. Mais Auger a ça en tête et donc peut défendre des gens qui sont partis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il donne assez libéralement des autorisations d'absence. On est extrêmement longtemps avant l'autonomie des universités. Même un assistant de faculté, s'il veut s'absenter, s'il veut partir à l'étranger, a besoin d'une autorisation du ministre lui-même. Alors qu'il lui est présenté par la direction générale. Mais donc, pour peu que la direction générale ne soit pas de bonne volonté, les gens ne partent pas. Donc, je voudrais citer moins longuement 2 autres cas. Donc Yves Rocard, ici, qui est le père de Michel Rocard, qui participe très activement à la résistance intérieure, puisqu'il est dans le même réseau que Jean Cavaillès, est exfiltré en Angleterre, travaille en Angleterre, et quand il revient en France, est nommé à la tête du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, qui est à ce moment-là le plus gros laboratoire académique en physique de France, en toute l'université. C'est un laboratoire qui fait 8000 m², c'est-à-dire qu'il est plus grand que la Sorbonne, concrètement. Il est vide, mais il est plus grand que la Sorbonne. Donc ça donne aussi des possibilités d'action très importantes. Et le troisième, qui est sans doute le plus connu, Frédéric Joliot, alors qui, lui, n'est pas normalien, n'est pas agrégé, mais prix Nobel, ce qui compense. Il est professeur ici même, au Collège de France. Il dirige le CNRS à la Libération, puis le Commissariat à l'énergie atomique. Lui n'est pas parti à l'étranger. Il a passé la guerre en France. Mais quand on lit sa correspondance, il y a une chose qu'il regrette, c'est de ne pas être parti. Pas tellement parce qu'il aurait été menacé personnellement, mais parce qu'il se rend compte de ce qu'ont appris les autres. Donc, de la tête du CNRS, il connaît extrêmement bien Pierre Auger. Vous voyez que ces gens-là sont de la même génération, à 2 ans près. Et Joliot et Auger se connaissent depuis qu'ils ont 20 ans. Donc, si vous voulez, le réseau d'interconnaissance fait que presque toutes les personnes à des positions de décision, qui à ce moment-là ont 45 ans, 46 ans, valorisent le séjour à l'étranger. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne part pas ? Bonne question. Parce que il y a une contrainte très importante qu'on a aussi tendance à complètement oublier, c'est que de 1939 à 1967, il y a en France un contrôle d'échange renforcé, très fort. Donc le moindre départ à l'étranger d'un chercheur ou d'un universitaire français est perçu doit être autorisé par les finances, le ministère des Finances, est perçu comme une fuite de devises. Ce que les finances ne veulent pas, évidemment. Donc, chaque institution universitaire, mais chaque institution publique détient, par exemple, un quota en dollars. Donc, elle peut changer tant de francs en dollars par an. Pour les universités, ce quota est extrêmement restreint. Ce qui fait, par exemple, que dans les années 40 et 50, il y a une correspondance extrêmement fournie entre les physiciens, chimistes et le ministère des Finances pour que les revues américaines, scientifiques américaines, soient considérées comme des besoins de première nécessité. Comme ça, ça pourrait sortir en dehors du quota. Ce que les finances ne comprennent pas et refusent absolument. Mais donc, pour une université, pour une faculté plutôt, le choix, c'est ou j'envoie des étudiants à l'étranger, ou des professeurs à l'étranger, ou j'achète des revues. Puisque tout cela prend sur le quota en dollars. Et on a tendance à plus prendre des revues, puisque comme ça, on peut satisfaire toutes les personnes de la faculté. Et donc, le problème constant jusqu'en 67, c'est on veut vraiment aller à l'étranger, mais on a une énorme contrainte administrative et financière. Comment on contourne ça? C'est sur quoi je vais me concentrer maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer ma borne de fin. 1968, c'est pas tellement pour les événements de mai 68 qui, sur la question, ne changent pas grand-chose, mais sur la fin de ce contrôle d'échange qui, là, d'un coup, change beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup de bonne volonté, on a des lourdes contraintes, donc les institutions qui s'impliquent là-dedans se multiplient, c'est sans fleurs qui éclosent, hein, pour parler comme Mao. Alors, pour vous faire un inventaire à la Prévert, on a les facultés, évidemment, puisqu'elles ont un certain nombre de bourses héritées, comme les bourses Hélène Nathan ou Walter Zelidja, la direction des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères qui veut s'impliquer aussi, le CNRS, le CEA, les fondations privées américaines comme la fondation Rockefeller, mais aussi des structures comme la Délégation générale à la recherche scientifique et technique qui est créée en 1958, l'OTAN, hein, même en partir de 1958, qui crée des bourses de circulation à l'intérieur des pays de l'OTAN pour de la recherche scientifique, mais aussi des entreprises qui voient dans le financement du voyage d'un chercheur un moyen de soutenir des laboratoires avec lesquels elles sont liées pour des raisons X ou Y, sachant qu'à ce moment-là, si vous voulez, tous les laboratoires français ont des caisses grises. C'est pas autorisé, mais c'est pas interdit non plus, abondé par les entreprises qui permettent les fonctionnements de ces laboratoires. Et donc, si le chercheur puise dans ses caisses grises pour aller, je sais pas, 6 mois au Japon, l'historien aura bien du mal à retracer la chose, puisque la caisse grise, par définition... Et enfin, on a aussi des associations comme l'Association française des femmes diplômées des universités, qui existe encore, et même le Rotary Club, qui s'en mêle et qui paye des voyages. Alors à chaque fois, tout le monde veut le faire, tout le monde se rend compte très vite que c'est très difficile et tout le monde arrête très vite. Donc ça laisse peu de traces dans les archives, mais heureusement, c'est pas le cas pour le CNRS. Le CNRS fonde, que je vais prendre comme exemple, des difficultés que ça implique concrètement. Le CNRS, en 1946, se dote donc d'une commission des relations à l'étranger, qui est présidée par un biologiste qui s'appelle Émile Terouanne, qui est un grand résistant. Et le but, c'est d'établir une politique générale du CNRS dans ses relations avec l'étranger. Alors ici, vous avez la première réunion, où le nombre d'assistants est limité, hein, puisqu'ils sont 4. Vous avez René Wurmser, Louis Rapkin et Émile Terouanne, qui parlent, le quatrième ne parle pas. Alors ce sont tous les trois des biologistes, ce sont tous les trois des anciens boursiers de la Fondation Rockefeller, c'est-à-dire que ce sont les seuls à avoir vraiment eu l'occasion de partir à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de physicien et de chimie, ce n'est pas parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais c'est parce que la Fondation Rockefeller avait eu une action très proactive pendant l'entre-deux-guerres sur les biologistes. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis en rouge. Wurmser souligne qu'il ne faut pas envoyer des gens trop jeunes, parce qu'après ils ne vont manquer d'individualité, ce qui est assez bizarre en sciences expérimentales. Normalement, l'individualité du travailleur n'est pas censé se ressentir dans le travail. Mais bon, de plus, la France a déjà assez peu de travailleurs, évidemment. En conclusion, il propose d'envoyer à l'étranger des gens et des gens déjà un passé scientifique bien établi. Ça, c'est l'ancien système. René Wurmser a à ce moment-là 60 ans. Louis Rapkin, qui par contre a 20 ans de moins, hein, propose qu'on envisage des catégories intermédiaires entre les jeunes et les patrons des laboratoires. Donc ce qu'ils appellent après des futurs patrons. Voilà. Il ressort de cette discussion que si on envoie des jeunes pour des disciplines à développer en France, il leur serait assez difficile à leur retour en France de pouvoir travailler profitablement, faute de direction. Cependant, s'il existe quelques chercheurs susceptibles de devenir de futurs chefs de laboratoire et de pouvoir créer ainsi en France de nouvelles disciplines, il faudrait alors encourager pleinement leur effort. Donc dès le début, on décide de sélectionner. On va envoyer ceux dont on sait que, dont on estime savoir que quand ils reviendront, ils pourront non seulement travailler efficacement, mais fonder un laboratoire. Évidemment, c'est sélectif, puisqu'il faut que dès qu'ils reviennent, ils soient en position de le faire. Voilà, donc ce qui revient aussi un peu plus loin dans le texte que je n'ai pas mis là, mais il faut donc envoyer des chercheurs assez matures, des futurs patrons probables, mais pas encore docteurs, puisque dès qu'ils sont docteurs, il faut justement qu'ils fassent campagne, comme je l'ai déjà évoqué, pour obtenir un poste. Donc le mieux est qu'ils partent à l'étranger une année avant de soutenir leur thèse, deux années avant de soutenir leur thèse, ils reviennent en France, ils soutiennent, ils font campagne, ils montent leur laboratoire. Je rappelle que le doctorat est science, hein, jusqu'au moins en 1984, on peut avoir travaillé où on veut. La direction de thèse n'est qu'une option, c'est pas obligatoire du tout d'avoir un directeur de thèse. On peut avoir travaillé à Alger et soutenir sa thèse à Paris, on peut avoir travaillé à San Francisco et soutenir sa thèse à Paris. Il suffit de trouver un professeur à la faculté de Paris qui veut bien écrire un rapport pour vous. Donc ça donne une flexibilité, par contre, du point de vue du diplôme, qui est très importante. On peut partir à l'étranger 3 ans et revenir et faire de ces 3 ans une thèse française. Évidemment, le doctorat est science, il n'y a aucune équivalence. Alors, conséquence de ça, puisqu'il n'y a pas, ça va échapper aux critères de certification académique mis en place jusqu'à maintenant, le voyage à l'étranger, puisque ça va être donc des gens qui ont commencé une thèse mais qui ne l'ont pas finie. Donc, la sélection va se faire sur des critères moins académiques que sur l'efficacité de l'insertion dans les réseaux qui font la vie académique, hein, puisque voilà, il faut faire des futurs patrons et ce n'est pas les notes au certificat de licence qui vous permettront de savoir qui est un futur patron ou non. Alors je prendrai un seul exemple, ça c'est un exemple de sélection pour un échange avec la Grande-Bretagne. Donc il y a 11 candidats pour l'échange avec la Grande-Bretagne. La commission du CNRS en retient 4, qui sont ces 4-là. Elle les classe et elle envoie ces 4 au British Council qui doit choisir parmi les 4. Évidemment, s'ils sont classés, le British Council va choisir les numéros 1 et 2. On regarde les candidats. A priori, on a ici un normalien, ici un polytechnicien, ici un universitaire pur et ici un ancien de Supélec qui est à ce moment-là une grande école en un an, qui n'est pas une grande valeur sur le marché académique. Pourtant, les 2 qui sont sélectionnés, c'est Anatole Abragham et Claude Marty, donc les 2 qui, en prenant les règles, j'allais dire classiques, du mode du fonctionnement académique, sont les moins titrés, les moins gradés. Alors là-dedans, bon, il n'y a rien de scandaleux, hein, ce n'est pas du tout de la dénonciation. Anatole Abragham est un très bon physicien, il a fini professeur ici, donc si vous voulez une autre preuve de ça. Voilà, Guy Aurisson est devenu directeur général d'enseignement supérieur, enfin bon. Tous ces gens-là sont célèbres dans le milieu concerné, évidemment. Alors, comment ça a marché? Ce sont les recommandations, alors ici de François Perrin, de Francis Perrin, ici de Frédéric Joliot, qui sont très proches de Louis Terouanne et qui a joué. Donc, j'ai par exemple une lettre de Terouanne à Joliot. Alors, au moment où je reçois votre lettre au sujet de M. Marty, il se trouve que la question de l'intéressé est déjà réglée, la commission compétente s'étant réunie. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il suffisait des quelques mots que vous aviez ajoutés à sa demande pour que cette commission soit suffisamment éclairée. Voilà, merci de votre... Je puis vous dire qu'en transmettant les dossiers au British Council, j'ai insisté sur le fait que les 2 premiers du classement présentaient une supériorité marquée sur les 2 suivants. C'est vraiment, on va envoyer Abragham et Marty à l'étranger. Alors, donc, on a un point important des fidélités personnelles qui sont renforcées par un milieu d'interconnaissance très forte. Si vous voulez, il y a un milieu d'interconnaissance très fort, des contraintes financières, elles aussi très fortes. Donc, forcément, dans ces cas-là, les critères purement académiques passent, pour ainsi dire, à la trappe. Ce qui est intéressant avec l'accord britannique, c'est que c'est la première idée pour contourner le contrôle d'échange. Comment on fait pour éviter la fuite des devises? On échange des mois chercheurs, entre guillemets, avec les Britanniques, puis après, très rapidement, enfin d'abord avec les Belges, puis les Britanniques, puis enfin les Italiens. Tous les ans, on échange, par exemple, 24 mois chercheurs avec la Belgique. C'est-à-dire qu'on répartit entre, si j'ai 10 chercheurs qui veulent partir, chaque chercheur peut avoir entre 2 et 3 mois en Belgique pour les Français, et en échange, le chercheur belge viennent en France. Ce qui, vu qu'ils restent payés par leur institution de départ, enfin, ils sont payés par l'institution d'arrivée, au contraire, excusez-moi, évite toute circulation de monnaie. On fait circuler les chercheurs, mais on ne fait pas circuler les monnaies. Alors, là, le moment où c'est le plus difficile, ce que tout le monde voudrait faire, c'est d'arriver à faire ça avec les États-Unis, hein, puisque tout le monde veut aller aux États-Unis. Hein, car la bombe atomique, c'est quand même eux. Alors ici, vous avez une lettre d'Alfred Kastler, donc qui est un physicien, à Émile Terouane, et qui explique que c'est des États-Unis que nous avons le plus à apprendre pour acquérir des techniques nouvelles. Alors, le problème, c'est que nos capacités à y aller seront bientôt complètement bloquées par notre pénurie en dollars. Donc, il faudrait passer un accord pareil qu'avec la Belgique et l'Angleterre, mais le problème est délicat, car étant donné l'autonomie des universités américaines, il est nécessaire de mener des négociations avec chacune des universités américaines. Comment résoudre le problème ? Heureusement, les Américains aussi ont des gros problèmes de devises, sur lesquels je vais revenir dans deux secondes, puisque ce programme va se mettre en place, ça s'appelle le programme Fulbright, qui existe encore aujourd'hui. Avant d'aller plus loin et de m'intéresser au programme Fulbright, je voudrais finir sur cette commission. La commission du CNRS est supprimée en 1950, avec toutes les autres commissions du CNRS, et le voyage à l'étranger est bureaucratisé à ce moment-là et rationalisé, c'est-à-dire qu'il ne relève plus d'une commission indépendante, mais il relève des commissions disciplinaires. Si vous êtes dans la commission de physique corpusculaire, que vous voulez aller à l'étranger, vous demandez à la commission de physique corpusculaire qui vous financera ou non votre voyage à l'étranger. Vu que les archives de ces commissions sont sans doute à Fontainebleau et que les archives de Fontainebleau s'effondrent, je n'ai pas pu avoir accès à ces documents. Mais donc le fait que ce soit intégré aux commissions montre que le voyage à l'étranger est intégré et normalisé, si vous voulez. Ça devient classique, et c'est parce qu'on est bon scientifique évalué par la commission qu'on pourra aller à l'étranger. C'est pas parce que Émile Terouane a bien voulu que vous alliez à l'étranger. Qui est quelqu'un de très bien, hein, je répète encore. Donc le programme Fulbright, c'est le plus important de tous ces programmes bilatéraux. Haynes Johnson, excusez-moi, et Bernard Gertzmann en parlent de la plus grande et la plus significative circulation de savants depuis la chute de Constantinople en 1453. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de publicité, de marketing sur ce programme Fulbright, qui est avant tout un instrument diplomatique. Pensé comme tel par les États-Unis, beaucoup plus qu'un instrument scientifique. Mais j'ai pu aller voir leurs archives à l'Université de l'Arkansas grâce à un financement du programme Alliance, que je remercie, et du Collège des écoles doctorales de mon université, Paris 1, que je remercie aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme ? Alors, c'est le Fulbright Act est signé le 1er août 1946. Le but premier, c'est de trouver une utilité à toutes ces devises étrangères acquise par le gouvernement américain au moment où il vend ses surplus militaires. Puisqu'en 1945, il se retrouve avec énormément de surplus militaires partout en Europe, partout en Asie. Il a le choix, ou il le vend sur place, et donc il acquiert des devises étrangères, ou il rapatrie tout ça sur le territoire américain, ce qui va lui coûter un argent hallucinant. Donc le choix qui est fait, c'est de vendre dans les devises des pays concernés et d'utiliser ces devises grâce au Fulbright Act pour envoyer des chercheurs américains à l'étranger, pour faire venir des chercheurs étrangers, des universitaires, des étudiants, etc., étrangers en France, enfin aux États-Unis. L'idée, c'est que en se connaissant mieux, en circulant mieux, en se connaissant mieux, on va parvenir à la paix mondiale. La question du progrès scientifique, hein, dans l'acte, par exemple, n'est jamais et à aucun moment évoquée. De toute façon, c'est rationnel. Là, la question, c'est d'utiliser de l'argent du taxpayer américain, même si ce n'est pas des dollars, pour donner de l'argent à des étrangers. Ce qui, politiquement, à ce moment-là, est inaudible, si ce n'est pour maintenir la paix. Sauf que vu que ces grants, donc ces bourses, ne peuvent être données qu'en monnaie étrangère, elles ne peuvent servir qu'à payer le voyage. Puisque vous n'allez pas donner une bourse en marks ou en francs à un Français pour qu'il vienne travailler aux États-Unis. Donc vous pouvez lui payer le voyage, en revanche. Mais il faut lui trouver un autre financement aux États-Unis. Ce qui fait que le système de sélection est d'une complexité dingue. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, on candidate auprès d'une commission binationale, moitié, où il y a moitié d'Américains, moitié de gens du pays concerné. qui font une première sélection. Ils font, parmi les gens premièrement sélectionnés, ils organisent une interview. Les résultats de ces interviews sont envoyés par le biais de l'ambassade américaine à un certain nombre d'institutions américaines qui placent les candidats sur un certain nombre de fellowships et de grants possibles. Donc les candidats ne choisissent pas où ils vont aller, ne choisissent pas ce qu'ils vont toucher. Ce n'est pas un marché, si vous voulez. Vous êtes orienté par le système américain vers les institutions, les fondations, etc. Une fois que vous êtes orienté, les institutions en elles-mêmes, qui sont indépendantes, sélectionnent encore une autre fois. Parce qu'elles ne vont pas forcément prendre, elles n'ont pas rien ne les force à prendre la personne que lui présentent les institutions fédérales. Et une fois que vous avez été sélectionné par l'université et ou la fondation concernée, vous êtes encore une dernière fois sélectionné par le Board of Foreign Studies, qui est ici, qui, alors c'est un peu sur la forme, mais c'est aussi un peu pour vérifier, surtout pendant les années 50, que vous n'êtes pas trop communiste. Parce que vous comprenez bien que c'est difficile. Voilà, donc c'est un processus de sélection qui est très long, qui prend 8 mois hein, en pratique. Il y a beaucoup de candidats. Pour prendre un exemple, en 1954, la commission franco-américaine reçoit 800 demandes. Elle en sélectionne 300. Et si j'ai bien compris, 150, ça fait 150 bourses à la fin. 150 bourses qui sont majoritairement des étudiants. Ça, c'est pour les étudiants. Hein, des étudiants anglicistes. Mais, pour des raisons évidentes, mais les sciences physiques sont représentées puisqu'il y a Georges Champier, qui est un chimiste, qui reste dans cette commission de façon permanente et qui permet de défendre les disciplines activement de l'intérieur. Alors, pour vous dire qui part, alors j'ai rien sur les étudiants, malheureusement. La France est quand même assez bien classée, c'est le 5e pays en nombre de chercheurs qui partent vers les États-Unis à ce moment-là. Alors, derrière, 125... Voilà, j'ai trouvé 125 Research Scholars qu'on peut classer en sciences physiques, pour aller vite, qui partent aux États-Unis. Ça vous classe 5e, donc derrière le Royaume-Uni, 511, bon, la proximité linguistique joue énormément, évidemment. Et 3 autres pays qui ont énormément, enfin, plus de fonds disponibles que la France, pour des raisons à la fois diplomatiques et militaires, puisque ce sont l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Vous imaginez bien que dans ces 3 pays, il y a plus de surplus militaires à vendre qu'il n'y en a en France, puisque ce sont les 3 pays vaincus, et que non seulement il y a plus de surplus militaire à vendre, donc il y a plus d'argent, mais en plus il y a un plus fort intérêt diplomatique à faire venir des Allemands aux États-Unis que faire venir des Français aux États-Unis. Donc on pourrait se dire que voilà, les 125 Français, ça fait 6,1% du total, c'est pas excellent, mais en même temps, les 4 autres qui sont devant bénéficient de conditions dont la France ne peut pas... On ne va pas regretter d'être dans le camp des gagnants. Enfin, voilà. Alors, en plus, bon, il y a des variations en fonction de la diplomatie. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'on part surtout, de façon assez constante, donc des gens du grade assistant et attaché de recherche, ce qu'aujourd'hui on appellerait des doctorants, ce qu'à l'époque on appelait des thésitifs, ce qui pouvait se faire ou assistant à la faculté ou attaché de recherche au CNRS, chef de travaux et chargé de recherche, donc juste après la soutenance. Si vous voulez, pour le dire dans un langage contemporain, en vert, vous avez les doctorants, et en rouge, vous avez les jeunes docteurs, qui sont un peu là en post-doc. Les 3/4 de ces gens sont en fait du CNRS, relèvent en réalité du CNRS. Ce que vous avez en bleu et en violet, en bleu et en jaune, excusez-moi, qui sont les professeurs et maîtres de conférences, et aussi maîtres de recherche, directeurs de recherche, c'est en fait la continuation de l'ancienne pratique de l'entre-deux-guerres, où on fait voyager des célébrités. Et là, le programme Fulbright joue aussi complètement. D'ailleurs, la source qui permet de tracer ce graphe donne aussi une indication sur ce que font les gens. Et donc, les assistants et chefs de travaux font à 100% de la recherche, alors que les professeurs et maîtres de conférences sont 18 professeurs sur 44 déclarent ne pas vouloir faire de recherche. Ils sont là uniquement pour faire du lecturing, pour prononcer des conférences. Voilà, ça c'est le modèle de l'échange. L'autre principal modèle qui permet de défendre une internationalité sans avoir à se soumettre à ces questions de contrôle d'échange, c'est de faire venir l'étranger à la maison, pour le dire vite. Alors, il y a déjà un énorme grant de 100 000 dollars qui a été donné au CNRS par la Fondation Rockefeller pour organiser une série de conférences. En France, avec des chercheurs étrangers. Je ne vais pas revenir là-dessus. Doris Zalen a fait un très bon article. Allez lire l'article de Doris Zalen. Je vais revenir sur quelque chose qui est est beaucoup plus, enfin, a un impact, je pense, beaucoup plus profond. C'est l'école de physique des Ouches. Alors, les Ouches, vous savez, c'est un petit village en Haute-Savoie. Alors, l'école de physique des Ouches, c'est une institution qui est le fruit de l'action d'une physicienne française, Cécile Morette, alors que, qui est particulièrement internationalisée. Hein. C'est une élève des Joliot-Curie et de Louis de Broglie. Alors, elle travaille de 46 à 47 à Dublin, de 47 à 48, elle est à Copenhague, et de 48 à 51, elle est à Princeton. Avec, jusque ce moment-là, l'objectif de revenir en France, après tout ça, hein, pour fonder un laboratoire. Sauf que, aléa de l'histoire, en 51, elle rencontre Bryce DeWitt à Princeton, et c'est le grand amour. Donc, elle ne veut... Elle, voilà... Rien ne, enfin, vu que en plus toute sa famille a été tuée par un bombardement allié à Caen, elle n'a rien qui la force à revenir en France sur le plan familial. Donc elle décide de rester aux États-Unis, mais elle veut quand même faire quelque chose pour la France. Hein, c'était quand même un sacré personnage. Donc elle décide de fonder cette école d'été, qui est la première au monde. Alors avec le soutien d'Yves Rocard, donc de l'école normale supérieure, et du successeur d'Auger à la direction de l'enseignement supérieur. Alors, évidemment, elle connaît tout le monde, puisque elle a fait à force de circuler. Donc, dès la première session à l'été 51, elle invite des gens comme Enrico Fermi, Wolfgang Pauli. Enfin, dès la première session, il y a énormément de prix Nobel dans le corps enseignant de cette école. Le but, c'est à chaque session, prendre un point précis du savoir mondial, de prendre les meilleurs spécialistes mondiaux là-dessus et de le passer en revue dans tous les sens. Et on voit, en effet, le corps enseignant, voilà, vous avez 25% de Français, presque 50% d'Américains, la Grande-Bretagne, la Suisse, etc., le Danemark, Danemark qui est un grand pays de physiciens-théoriciens. Alors, il y a forcément une majorité d'étrangers parmi les enseignants et au moins la moitié d'étrangers parmi les élèves. Ce qui fait que la chose est extrêmement efficace, c'est le côté institution totale à l'Irving Goffman de la chose. Vous bloquez pendant 6 à 8 semaines une trentaine de jeunes étudiants et une quinzaine de profs. Ils n'ont rien d'autre à faire que de la physique, parce que concrètement, à ce moment-là, il y a un chalet et c'est tout. Il n'y a même pas de toilette. Donc tous les matins, cours, 4 heures de cours de physique tous les matins en anglais. Et l'après-midi, tout ce qu'il y a à faire, c'est parler de la physique dont on vous a parlé le matin. Voilà, et donc vous avez en plus, évidemment, ça a une efficacité impressionnante sur le plan de vue pédagogique. En plus, ça crée un sentiment de camaraderie, des liens qui sont très utiles après pour le développement des carrières. Et je parlerai, je citerai simplement Pierre-Gilles Degenne qui disait que notre génération a été sauvée par cette école, carrément. Et de fait, tous les physiciens français qui ont été nommés dans cette maison au Collège de France à partir de 1971 sont des anciens élèves de l'école des Ouches. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement sélectif l'entrée. Hein, sur les 250 Français élèves, vous avez un peu plus du tiers qui sont normaliens. Pour prendre un indicateur comme un autre. Pour les 41 étudiants américains, vous en avez 15 qui viennent de la Ivy League. Alors, bon, j'en profite, Cécile Morette étant décédée la semaine dernière, pour lui rendre hommage. Elle a bien mérité de la science, il faut admettre. Et je remercie aussi la directrice actuelle de l'école des Ouches qui m'a autorisé à rentrer dans son bureau et à voir toutes les archives qu'il y avait dedans, ce qui est sport. Voilà. Pour finir, et je vais conclure là-dessus, avec la multiplication de ces institutions, si vous voulez, qui chacune agissent dans leur coin avec plus ou moins de degré d'efficacité, comment on peut quantifier globalement ? C'est là où on a des problèmes, parce que par exemple, les dossiers d'étudiants ont brûlé en mai 68. Donc pour l'historien qui voudrait quantifier, la faculté des sciences, hein, pour l'historien qui voudrait quantifier, il n'y a pas de dossier d'étudiants, il faut trouver un autre moyen. Les dossiers de carrière du CNRS non plus ne sont pas accessibles non plus, j'en ai déjà parlé. Donc j'ai décidé de prévoir en stratège et d'agir un peu en primitif, et j'ai saisi l'intégralité des remerciements des thèses alors soutenues à Paris entre 45 et 68, grâce encore à l'aide d'autres personnes, le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, qui m'y a donné accès à son hangar, pour voir, ça fait 10 000 thèses à peu près. Alors bon, pour l'instant, j'ai pu coder qu'une année sur cinq. Dans la thèse finale, j'aurais codé tout le monde et j'aurais pu faire des croisements. Ce que vous voyez ici en bleu, ce sont les remerciements où on remercie que des Français. En rouge, il n'y a pas de remerciements. En jaune, vous remerciez des étrangers. Et en violet, ce sont des gens qui sont allés à l'étranger. Donc vous voyez bien que violet et jaune, il y en a de plus en plus, mais ça reste rare en réalité. En 1945, il y a une seule personne, c'est le doctorant qui est parti avec Pierre Roger à Chicago, donc qui a une expérience étrangère. En 50 et en 55, vous restez à chaque fois un total de 10 thèses qu'on pourrait dire internationalisées sur des totales qui sont de 57 et de 97. L'hypothèse que je pose pour l'instant, c'est qu'en 1950, là, vous avez la première génération qui a été envoyée à l'étranger, la génération des aventuriers, à partir de toute cette floraison d'institutions différentes. En 55, le recours à l'étranger est moins important puisque justement cette génération-là a pu fonder des laboratoires. Donc les domaines qui n'avaient pas été remplis par la France pendant la guerre le sont, et donc il y a moyen de faire des thèses dans ces domaines sans devoir aller à Princeton ou à Harvard. Par contre, à partir des années 60 et 65, là, ça se normalise beaucoup plus. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui jouent. Au premier rang, sans doute, la naissance d'une politique scientifique française avec les mendésistes et les gaullistes. Il y a beaucoup plus d'argent, bêtement. Donc, même avec le contrôle d'échange, on peut envoyer beaucoup plus de gens. Il y a un effet mécanique qui est le fonctionnement du CERN à Genève, puisque tous les doctorants qui vont travailler au CERN vont remercier le CERN, et donc, voilà, ils vont compter comme ayant une relation internationale, ce qui est vrai. Et enfin, le développement des thèses de troisième cycle qui ont été fondées en 1954, qui permettent de certifier une formation à la recherche avant le doctorat en sciences, donc qui permettent de diminuer le risque de l'envoi à l'étranger. Si la thèse de troisième cycle qui est obtenue au bout de 2 ans de travail et non de 5 ou 6 comme un doctorat en sciences est bonne, on peut envoyer à l'étranger sans prendre de risque. Voilà. Donc pour conclure, malgré tout, voilà, l'internationalité s'est normalisée, elle est en voie de rationalisation, elle n'est pas pour autant banalisée, tant l'accès reste limité et compétitif, sans doute tout au sens socialement que du point de vue du genre, mais pour ça, il faudrait que je finisse le codage pour pouvoir vous le prouver. Pour le parler un peu comme Antoine Milty, elle passe d'une prérogative de la célébrité à celle d'une prérogative de la bonne réputation, en un certain sens, de gens qui se connaissent en interne. Elle s'affirme ainsi comme un nouveau principe de hiérarchisation, une nouvelle dimension, une nouvelle composante, si vous voulez, de ce qui fait le scientifique talentueux et prometteur, alors même que l'enjeu qu'il a fait naître, du rattrapage de la science française, qui a provoqué cette transformation, lui, il disparaît. Je vous remercie.